Et les matins débutent avec le journal de Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. C'est aujourd'hui la journée de l'Europe. Comment Emmanuel Macron est-il considéré par les autres Européens? Alors que le vote pour renouveler le Parlement de Strasbourg a lieu dans 17 jours seulement, que peut espérer également La République En Marche dans l'hémicycle européen? Analyse à suivre avec Rosalie Lafarge et Louise Baudet dans ce journal.
Un appel à la grève dans tous les services publics aujourd'hui.
Les syndicats du public dénoncent les réformes en cours, notamment à l'école, mais aussi dans les hôpitaux.
Et pour mieux rémunérer les contenus publiés en ligne, une proposition de loi doit être votée aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
Pour obliger notamment Google et Facebook à payer en partie pour les articles partagés sur leur réseau, précision à suivre. Et puis, les États-Unis promettent de nouvelles sanctions à l'Iran après donc hier les déclarations de Téhéran par rapport au nucléaire iranien. Précision à suivre à Washington avec Grégory Phillips. Et puis, la question du jour, Guillaume.
Eh bien, cette question, elle se pose de plus en plus dans le sport. Comment déterminer le sexe d'un individu? On posera cette question à Sophie Christin Maître, elle est chef du service d'endocrinologie à l'hôpital Saint-Antoine à Paris.
Emmanuel Macron promettait de refonder l'Europe dans son discours de la Sorbonne il y a un peu moins de 2 ans. En cette journée de l'Europe à 17 jours du vote pour les législatives, après l'espoir que ce discours avait pu susciter, Rosalie Lafarge, que représente aujourd'hui le président français pour les autres Européens 2 ans après son élection ?
Après 2 ans d'exercice du pouvoir, beaucoup de choses ont changé. En Italie, le gouvernement a changé, l'opinion publique a changé. Et pour le politologue italien Paolo Modugno, le leadership n'est plus vraiment incarné par Emmanuel Macron.
Il essaye de l'incarner et force est de constater qu'il est un peu seul parce que la deuxième jambe sur laquelle marchait l'Union européenne, c'est-à-dire le rapport avec l'Allemagne, est pour le moins abîmée. Donc Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est un des dirigeants qui a une certaine vision par rapport à l'Europe, mais malheureusement, il est assez seul.
Mis en difficulté par un couple franco-allemand de plus en plus branlant, selon les Italiens, mais en Allemagne, justement, cette crise de couple semble offrir à Emmanuel Macron une nouvelle aura, en tout cas selon la munichoise Karina Sanger, diplômée de sciences politiques.
Là, il y a une crise et Merkel ne dit plus rien. Avec toutes les disputes qui sont entre les partis. Elle n'est pas très présente pour la campagne pour les élections européennes. À côté, on voit Macron qui peut parler avec une voix, si on veut dire. On le voit beaucoup plus comme leader que Merkel, ça c'est sûr.
Sauf qu'en Grèce, on a du mal à voir les actes derrière les mots du président français, regrette Philippe Achati-Savrou, professeur de sciences politiques à l'Université d'Athènes.
Il n'est pas réussi à influencer l'agenda européen. C'est une forme de déception qu'on ressent. Parce que l'influence française dans les couloirs bruxellois, on la sent pas, on retrouve pas les attentes qu'on voudrait que la France porte.
Et chez nos voisins, on sent quand même le président très concerné, très pris par les problèmes internes, crise des gilets jaunes en tête. Pas facile d'imposer sa vision au niveau européen quand elle est à ce point remise en cause dans son propre pays.
Les analyses de politologues allemands, italiens, grecs, mais aussi bulgares et belges sont à retrouver sur franceculture.fr. Que pourrait peser la majorité présidentielle au Parlement européen à l'issue du scrutin du 26 mai prochain? Le parti d'Emmanuel Macron espère créer une force centrale dans l'hémicycle de Strasbourg, un groupe faiseur de rois à défaut d'être majoritaire, car les sondages ne prédisent à l'heure actuelle que 20 à 25 sièges aux marcheurs pour le 26 mai prochain. Il leur fera donc trouver des alliés partout en Europe, Louise Baudet.
C'est l'autre campagne des marcheurs, de Rome à Tallinn, de Stockholm à Athènes, campagne menée ces dernières semaines par des ambassadeurs de la Renaissance, petite dizaine de soldats du macronisme chargés de séduire de futurs alliés. Objectif, créer une force politique d'au moins 100 élus au Parlement, sans laquelle aucune majorité ne sera possible, et casser la domination exercée depuis 40 ans par les sociaux-démocrates et la droite du PPE. Pour cela, il faut d'abord faire du neuf avec du vieux, le premier allié des marcheurs. Est un groupe de l'ancien monde, l'ALDE, ou Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe. Actuelle 4e force dans l'hémicycle avec 69 membres, elle est prête à se saborder pour la cause progressiste en se délestant au passage de quelques épouvantails aux valeurs jugées incompatibles avec le macronisme. Refondée donc pour attirer de nouveaux venus, comme le parti pirate tchèque ou le polonais Robert Biedron, et mieux encore pour déplumer la concurrence sociaux-démocrates italiens ou suédois, écologistes comme aux Pays-Bas. Les marcheurs se retrouvent donc à discuter avec des rivaux de l'ALDE. Pire, ils courtisent dans certains pays plusieurs partis concurrents. Pas simple, sachant que tout va dépendre des rapports de force électoraux au soir du 26 mai et qu'il faut donc faire le meilleur score possible en France pour s'imposer à la tête de ce futur groupe et peser sur les nominations aux postes clés.
Et c'est hier que le programme de la liste de la République en marche Modem pour les élections européennes a été rendu public, avec à l'intérieur un objectif de 1000 milliards d'euros d'investissements européens d'ici 2024 pour la transition écologique. La tête de liste écologiste Yannick Jadot parle d'enfumage de la part des marcheurs. On l'entendra dans le journal de 8h sur France Culture.
Et oui, mais en attendant, il est 7h05 sur France Culture et c'est la suite du journal de Sophie Delpont. En France, c'est un appel à une grève nationale dans le service public.
Oui, les 9 syndicats de fonctionnaires appellent les 5,5 millions d'agents publics à se mobiliser aujourd'hui contre la réforme du service public. Au cœur des inquiétudes, notamment l'hôpital et l'ensemble des professions au bord de l'asphyxie en ce moment à Paris. 17 établissements de la PHP, l'assistance publique des hôpitaux de Paris, sont déjà en grève illimitée depuis le 15 avril dernier. Les syndicats CGT, Sud et le collectif Interurgence se mobilisent pour redonner du sens et des moyens à leur métier, David Ravier.
Plus de postes dans les hôpitaux et 300 euros de plus à la fin du mois, voilà les deux totems défendus par les syndicats. Il y a 2 semaines, la direction de l'APHP a proposé de créer 61 postes pour les urgences, de donner une prime de 65 euros aux agents des services d'urgence et de verser une prime exceptionnelle de 250 euros pour les infirmiers et les aides-soignants. C'est avec ce geste, la direction a voulu montrer son envie de sortir de l'impasse. Pour Olivier Youinou, le co-secrétaire général du syndicat Sud Santé, ce n'est pas suffisant.
La direction peut faire un geste si elle veut, hein, mais en matière d'effectifs comme en matière de salaire, il y a un tel retard de prix, il y a un gel des salaires sur l'ensemble de la fonction publique depuis plus de 10 ans. Et il y a un gel sur les effectifs depuis quasiment autant. Et aujourd'hui, le retard pris, forcément, paraît abyssal pour une direction qui compte les petits sous, quoi, et qui fait les fonds de tiroir.
Selon les calculs établis par les syndicats, il faudra au moins 700 équivalents temps plein pour pouvoir assurer un service de qualité et au moins 1700 euros par mois pour tous les salariés afin d'être rémunérés à leur juste valeur, ce qui est loin des propositions avancées par la direction, comme l'affirme Rosemée Rousseau, la secrétaire générale de l'USAP CGT.
Ces mesures ne sont absolument pas suffisante. Nous avons fait le calcul pour un site pour pouvoir répondre aux besoins. Il faudrait 62 postes, ce que propose Martin Hirsch pour les 17 sites qui sont actuellement en grève.
Après la journée de grève, les syndicats auront de nouvelles négociations vendredi avec la direction de la PHP afin de trouver un compromis.
David Ravier pour France Culture. Des médecins mobilisés aussi contre le fichage des gilets jaunes dans les hôpitaux. Une centaine d'entre eux a signé une tribune publiée hier soir demandant l'arrêt immédiat de l'utilisation par les autorités sanitaires de fichiers référençant les personnes blessées lors des mouvements sociaux, dénonçant ce qu'ils qualifient de dérive inacceptable dans l'extension de cette pratique à des gilets jaunes lors de certaines manifestations. Montée de tension dans le dossier du nucléaire iranien, un an après la sortie des États-Unis de l'accord de Vienne, texte signé en 2015 par Washington, Téhéran et 5 autres puissances, duquel Donald Trump a retiré les États-Unis. Un an plus tard, le ton se durcit encore un peu plus. D'un côté, les Iraniens ont annoncé hier qu'ils allaient s'affranchir d'une partie de leurs engagements de 2015. Et de l'autre, Donald Trump promet de nouvelles sanctions américaines. À Washington, Grégory Phillips.
Après avoir visé les banques iraniennes et le pétrole, les États-Unis ont donc annoncé ces nouvelles sanctions qui concernent cette fois les secteurs du fer, de l'acier, de l'aluminium et du cuivre. Les pays, entreprises ou entités qui achèteraient des métaux industriels en provenance d'Iran seront immédiatement punis. La décision unilatérale vise à étouffer encore un peu plus l'économie iranienne, même si hier soir, en meeting à Panama City en Floride, Donald Trump a laissé entendre qu'il pourrait envisager un nouvel accord pour remplacer celui de 2015.
Je me suis vu dans l'obligation d'autoriser ces nouvelles sanctions sur l'acier, l'aluminium et le cuivre iranien. Parce que j'espère pouvoir un jour, mais peut-être que ça n'arrivera jamais, probablement que ça n'arrivera pas, m'asseoir avec eux et travailler à un accord plus juste. On ne veut attaquer personne, on veut un accord, on ne veut pas qu'ils aient l'arme nucléaire, c'est tout.
Dans le même temps, les États-Unis montrent les muscles, envoyant un porte-avions et plusieurs bombardiers dans le golfe Persique. La stratégie reste la même, celle de la pression maximale, sans que l'on sache vraiment si la volonté de l'administration américaine est, comme l'écrivait hier Trump, d'empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire, ou bien d'accentuer encore un peu plus cette pression en espérant un changement de régime à Téhéran.
Grégory Phillips à Washington pour France Culture.
7h09, comment permettre aux auteurs d'articles de presse et aux éditeurs de mieux se faire rémunérer, notamment par Google et Facebook, ce fidèle pont?
Oui, les géants du net. En France, les députés examinent aujourd'hui à l'Assemblée nationale une proposition de loi portée par le Modem pour instaurer ce que l'on appelle un droit voisin en France visant les sites qui agrègent et diffusent des articles en ligne produits par d'autres. Ce texte découle d'une directive de l'Union européenne votée fin mars. Dans le viseur, les géants du net qui vivent de la publicité mais ne redistribuent presque rien de cette manne aux créateurs de contenu d'actualité, Antoine Geoffin.
Aujourd'hui, ces plateformes compilent des articles de presse pour leurs utilisateurs sans verser un centime aux journalistes qui les produisent. Et c'est tout le but du droit voisin introduit par la proposition de loi Modem, obliger les GAFA à payer. Erwan Balanan, député Modem du Finistère.
Ils utilisent le contenu produit par les médias pour créer du contenu, contenu que eux ils valorisent par la pub qu'ils vendent. Le droit voisin va permettre de redistribuer une partie du gâteau aux éditeurs de presse initiaux, producteurs initiaux du contenu.
Avant le vote au Parlement européen fin mars et aujourd'hui à l'Assemblée nationale, les géants du net ont usé de leur réseau d'influence pour ne pas payer. Patrick Mignola, président du groupe Modem à l'Assemblée et rapporteur du texte.
Ça a été un lobbying comme jamais vu au Parlement européen, avec des appels téléphoniques, avec des centaines de mails tous les jours, avec des détournements du propos de la loi, en expliquant que ça allait être une taxe sur Internet, que c'était la fin de l'Internet gratuit, que c'était même un pillage des journalistes. Alors c'est exactement l'inverse. Les GAFA doivent simplement rentrer en démocratie. On a fait en sorte qu'ils payent des impôts, ils luttent en période électorale contre les fake news. On fait en sorte aussi qu'ils respectent le travail de la presse dans une démocratie moderne.
Selon la directive européenne, la part de rémunération des médias devra être appropriée et équitable. Mais comment savoir quelle part revient à France Culture, au Figaro, aux Échos ou encore à TF1? Faut-il répartir en fonction de l'audience ou alors des coûts de production d'un reportage, que ce soit à Paris ou à Kaboul? La presse devra s'entendre pour se répartir cette probable manne négociée au préalable avec les GAFA.
Antoine Geoffin, cette proposition de loi devrait passer sans encombre. Mardi déjà, elle a reçu un feu vert unanime en commission parlementaire. De la pluie presque partout ce matin, sauf au bord de la Méditerranée. Et par contre, le Finistère, je vous le dis, Guillaume, aura également du soleil aujourd'hui. Vous pouvez vous y rendre. Les températures sont comprises en moyenne entre 10 et 19 degrés ce matin, avec 10 degrés à Belfort, 13 à Paris et 19 degrés maximum à Perpignan.